chacun a fabriqué son propre pain. Une miche pas plus grosse qu'une balle de tennis, qu'ils ont engloutie à l'heure de la collation. Même les 5 accompagnateurs, Eliane et Mylène, les institutrices, Bruno, le prof de gym, Véronique, la bibliothécaire, et Sandrine, la surveillante, se sont pris au jeu. La météo particulièrement clémente et l'ambiance enjouée générée par l'exaltation des enfants donnent à cette journée un avant-goût de vacances, qui ajoute à la bonne humeur générale. L'année scolaire touche à sa fin, et avec elle, la décontraction prend le pas sur les conventions et autres civilités professionnelles. Mylène, particulièrement investie dans son rôle d'apprentie fermière, a été rebaptisée Mylène Farmer par Bruno, ce qui suscite l'hilarité de Sandrine et Véronique. Seule Eliane n'a pas compris le jeu de mots. Elle ignore qui est Mylène Farmer. Quant à la principale intéressée, qui n'a aucune notion d'anglais, elle était moyennement amusée par l'association, persuadée que Bruno faisait allusion à la couleur de ses cheveux. Elle a néanmoins pris le parti de rire, pour ne pas paraître ridicule. La matinée touche à sa fin. Après avoir salué Jeanne et Paul, les charmants fermiers qui les ont accueillis, ainsi que tous les animaux, la joyeuse troupe remonte dans le car pour mettre le cap sur le bois des Quatre Chênes, où ils pique-niquent de bon appétit. Durant le déjeuner, les adultes encadrent les enfants avant de leur laisser quartier libre une petite demi-heure, le temps pour eux d'avaler leur propre casse-croûte. Bruno est installé en tailleur à même le sol, adossé contre un arbre. À ses côtés, Sandrine et Véronique semblent former un duo de groupies. Ils bavardent, plaisantent, rigolent, les blagues fusent, complices et légères. Mylène et Eliane, légèrement à l'écart, avalent consciencieusement leur sandwich, tout en gardant un œil attentif sur le groupe d'élèves qui s'amusent dans la clairière. De temps à autre, l'une d'elles apostrophe un enfant, le priant de se calmer, de ne pas dépasser les limites autorisées, de ne pas se rouler dans l'herbe ou de lâcher le cou d'un petit camarade. L'endroit est idyllique. Bordé d'arbres aux feuillages généreux et aux teintes variées, la clairière ressemble à un écrin de verdure dont les herbes ondoient sous les rayons du soleil. Le chant des oiseaux accompagne la clameur des enfants, à moins que ce ne soit le contraire. Les arômes de la forêt se mêlent au parfum des fleurs sauvages qui parsèment le lieu. On dirait des taches de couleurs dans un tableau impressionniste. À part quelques petits bobos sans gravité, les enfants sont ravis de leur matinée et entament l'après-midi avec une belle énergie. L'instant pourrait être parfait. Pourtant, Mylène n'a pas le cœur à rire. L'évidente connivence qui règne entre Bruno, Sandrine et Véronique la renvoie à sa propre solitude. Cette appréhension chevillée à l'âme qui, depuis qu'elle est petite, la rend naturellement austère. Ses tentatives de décontraction sont chaque fois de cuisants échecs qui amplifient son sentiment d'exclusion. Quand elle essaie de plaisanter, ça sonne faux, ça tombe à plat, c'est ridicule. Elle manque d'humour et de répartie, et jalouse l'assurance et la désinvolture dont les autres semblent généreusement pourvus. Pour ne rien arranger, elle est parfaitement lucide du physique ingrat qu'elle trimballe, tel un fardeau honteux et encombrant. Ça lui fait comme un trou au milieu des tripes. Le cœur lourd, elle se maudit d'être laide, rigide, insipide et complexée. Après avoir avalé son sandwich, elle prend conscience qu'elle a oublié son injection d'insuline, nécessaire avant le repas. Il est temps qu'elle la fasse, ayant déjà sauté celle du matin, dans la course et l'énervement du départ. C'était bien la peine de prendre le stylo de son père si elle ne s'en sert pas. La jeune institutrice regarde autour d'elle afin de détecter un endroit où s'isoler. À l'école, personne n'est au courant de sa maladie. Ses défaillances et autres imperfections sont déjà légion, inutile d'y ajouter le diabète. On la plaint bien assez comme ça. Elle repère un peu plus loin quelques buissons derrière lesquels elle pourra s'injecter le médicament à l'abri des regards. Puis, elle fouille dans son sac, à la recherche du stylo.
Sans vouloir jouer les troubles faites, il serait peut-être temps de passer à la suite du programme,
propose Eliane en se relevant et en époustant les brins d'herbe accrochés à sa jupe. Sandrine, Véronique et Bruno acquiescent de concert. Tous trois se lèvent à leur tour et aident aussitôt l'institutrice à ramasser les quelques détritus oubliés par les enfants. Mylène observe ses collègues à la dérobée. Elle tarde à les rejoindre, ruminant l'injustice de son état. Si elle s'isole maintenant, on risque de lui poser des questions. Elle pourrait feindre un besoin pressant. Mais là aussi, une honte sournoise l'empêche d'évoquer cette nécessité pourtant naturelle. Son évidente exclusion du groupe des enseignants lui pèse plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Si ça avait été elle, Mylène, qui avait mis fin à la pause du midi, sûre qu'elle serait passée pour la casse-pied de service, l'éternel boulet qu'on supporte par obligation. Eliane aussi semble à l'écart du trio, mais elle a l'excuse de l'âge, et n'en paraît pas contrarié le moins du monde.
« Les enfants !»
clament en chœur Sandrine et Véronique.
« Rassemblement ! On se regroupe tout de suite ! Allez hop !»
Les gosses les rejoignent en nuée bariolée, formant bientôt une masse compacte et bruyante. Eliane se charge de ramener l'ordre et le calme pendant que les derniers petits retardataires se hâtent vers eux.
« Vous venez, Mylène ?»
la hèle Sandrine, tandis que Bruno et Véronique font rapidement le compte des élèves.
« J'arrive !»
répond la jeune femme, en se forçant à sourire. Tant pis, elle se fera son injection un peu plus tard, quand chacun vaquera à ses occupations.
« Ok, tout le monde est là !»
déclare Bruno, satisfait. Puis, élevant la voix pour être entendu de tous.
« On va commencer le concours de cabane !»
Les enfants expriment leur ravissement dans un tumulte enthousiaste, que Bruno apaise très vite en exigeant le calme.
« Silence ! Sinon, il n'y aura rien du tout. Pas de concours, pas de cabane, on rentre à l'école et basta. Compris ?»
Le sourire en banane, tous acquiescent vigoureusement. Ils connaissent les menaces de leur prof de gym, toujours terriblement cruelles, mais jamais mises en pratique.
« Nous allons faire des groupes de 6 !»
explique-t-il d'une voix forte.
« Jérémy, si ce que je raconte ne t'intéresse pas, surtout n'hésite pas à me le dire, hein ?»
Le petit Jérémy suspend son geste, celui de pousser l'un de ses camarades, et prend aussitôt un air angélique qui fait rire Bruno sous cap.
« Chaque groupe aura un chef d'équipe, c'est-à-dire un de nous 5 »,
poursuit-il, en se désignant lui-même ainsi que ses collègues.
« Nous avons 2 heures pour construire les plus belles cabanes du monde. L'équipe qui érigera la construction la plus solide aura gagné. C'est compris ?»
Dans une clameur enchantée, les enfants répondent par l'affirmative à l'unisson.
« Parfait ! Alors maintenant, on va faire les groupes !»
Durant les minutes qui suivent, Bruno répartit les enfants en 5 groupes de 6. La tâche est compliquée car il faut tenir compte des affinités et antipathies très fluctuantes à cette période juvénile de l'existence. Les uns, qui étaient encore meilleurs amis ce matin, ne souffrent plus à présent de devoir s'adresser la parole. Les autres, qui ne pouvaient pas se supporter à l'heure du déjeuner, sont maintenant devenus inséparables. Ensuite, Véronique attribue un adulte à la tête de chaque groupe. Quelques instants plus tard, chacun prend possession de ses troupes et le top départ du concours est lancé. À l'instar de ses collègues, Mylène commence par adresser quelques mots aux membres de son groupe afin de les motiver et de définir une stratégie. Parmi les 6 enfants dont elle a la charge, 4 sont dans sa classe. Félicien, Elena, Emma et Harold. Elle commence donc par demander aux 2 autres, qui sont des élèves d'Eliane, de lui rappeler leurs prénoms. Eva et Léo s'exécutent aussitôt. Puis, elle les amène vers un coin de la clairière, à proximité des arbres, afin de trouver le meilleur endroit pour construire leur cabane. Tout en marchant, elle tente de connaître les compétences de chacun.
« Mademoiselle Mylène !»
l'interpelle Félicien.
« Il y a Emma qui veut pas venir avec nous !»
Interrompue en pleine phrase, Mylène se retourne. Félicien a raison. La petite Emma Verdier n'a pas bougé de sa place initiale et garde la tête obstinément baissée, dans une moue grincheuse et renfrognée.
« Emma, tu viens ?»
lui enjoint l'institutrice. La gamine ne bouge pas et ne répond pas.
« Emma, tu m'entends ?»
Toujours pas de réaction. Mylène hésite un instant. Elle déteste les caprices et connaît le caractère tyrannique de la fillette, son aptitude à faire sauter tout le monde dans le cerceau, ainsi que la ténacité de son obstination. Emma est une vraie tête de mule. Elle peut être absolument charmante, mais aussi complètement détestable. Dans ses mauvais jours, elle réussirait à faire combattre 2 montagnes entre elles. Elle possède un don tout à fait insensé pour ergoter, chicaner, grogner, protester, pester, râler et surtout, ne jamais lâcher l'affaire. Du haut de ses 5 ans, cette gamine peut être une vraie plaie. Mylène revient sur ses pas et s'approche de la fillette.
« Qu'est-ce qui se passe, Emma ? Tu veux pas venir construire une cabane ?»
La petite fille fustige son institutrice du regard.
« Je veux construire une cabane, mais pas avec toi. »
Surprise, Mylène lève un sourcil interloqué.
« Ah bon ? Et pourquoi, je te prie ?»
Cette fois, l'enfant garde un silence buté. Mylène lève les yeux au ciel tout en soupirant, puis elle la considère avec une certaine lassitude.
« Bon, Emma, je n'ai pas de temps à perdre avec je ne sais laquelle de tes lubies. Si tu veux pas construire une cabane avec moi, personne ne t'y force. Reste ici et attends qu'on ait fini. »